Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans quelques instants, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis notre invité, Franz-Olivier Gisbert, pour la sortie de son livre Dernier été, une satire d'une société qui ressemble étrangement à la nôtre. Il y aura évidemment son portrait inattendu par Hélène Manarino. Et puis dans les indispensables des jeux vidéo à prendre dans ses valises pour les vacances et de la musique électro. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui débute par la disparition d'un créateur très célèbre.
Il s'appelle Milton Glaser. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous parle du logo I Love New York, vous savez, avec le cœur rouge.
Quand j'étais petit, je croyais que ça voulait dire Yoni, je ne comprenais pas ce que c'était.
Ah bah oui, bah moi aussi pareil, c'est pareil. Alors, l'on retrouve sur des t-shirts, sacs, cadres, un logo créé dans les années 70, connu dans le monde entier et prisé par tous les touristes. Le graphiste américain est donc créateur de cette marque et décédé à l'âge de 91 ans. Sa femme a annoncé son décès dans le New York Times. Milton Glaser s'est fait connaître en 1967 avec son poster de Bob Dylan où le chanteur est dans l'ombre, de profil avec, vous savez, une chevelure de toutes les couleurs. Oui. Il a imaginé aussi le logo de l'éditeur de bande dessinée DC Comics. En 2009, Milton Glaser a reçu des mains de Barack Obama la médaille nationale des arts. C'est le premier graphiste à recevoir la plus haute distinction accordée par le gouvernement américain aux artistes. Ses œuvres ont été exposées au MoMA à New York ou encore au Centre Pompidou à Paris.
Et attention, ça rigole pas, les Rolling Stones menace Donald Trump.
Suite à l'utilisation de cette chanson « You can't always get what you want » que le président américain a utilisé lors d'événements pour sa campagne. Pour le groupe, si Donald Trump continue à utiliser leur musique, ils attaqueront en justice. Les Rolling Stones sont en contact avec l'organisme américain de protection des droits musicaux. L'information a été relayée sur leur compte Twitter officiel. Alors ce n'est pas la première fois que des artistes s'opposent à l'utilisation de leur musique par le président américain. Il y a eu aussi le groupe Queen, Village People, Adele ou encore Neil Young.
Et les avocats des Rolling Stones, il peut y avoir du monde. Un acteur robot pour Hollywood.
Et oui Philippe, on n'arrête pas le progrès. Je vais vous parler d'Erika, un androïde japonais, un robot d'intelligence artificielle. Alors Erika, elle a été mannequin, présentatrice télé, et elle passe maintenant au cinéma. Selon le Hollywood Reporter, la société Bondi Capital Media se lance dans un film de science-fiction avec en actrice principale Erika. Le film s'appelle B, il coûte 70 millions de dollars. Il racontera la création d'un programme pour reconstituer et optimiser l'ADN humain. Erika va vouloir s'échapper. Alors apparemment, elle sait jouer la comédie. Ses créateurs lui ont enseigné l'acting. Ses mouvements sont stimulés. Ses émotions grandissent au fur et à mesure des séances de travail.
Et puis un groupe bat le record du clip le plus visionné sur YouTube en une seule journée.
Et ce record est pour le groupe féminin de K-pop. Vous savez, la pop
Bien
coréenne.
Sûr.
Elle s'appelle Blackpink avec cette chanson. En 24 heures, le clip de cette chanson a été visionné plus de 82,4 millions de fois. C'est aussi la vidéo la plus rapide de l'histoire de YouTube à atteindre les 100 millions de vues. Il aura juste fallu 30 heures.
Et c'est les fans de K-pop, c'est une communauté énorme. Et
Exactement.
C'est eux qui avaient piraté le meeting de Donald Trump en faisant croire qu'ils allaient venir. Et ils ne sont pas venus puisqu'ils étaient pour la plupart en Corée ou partout dans le monde. Et puis Hélène, vous terminez ce journal avec votre spécialité.
Et oui Philippe, c'est un cadeau que je vous fais ce matin. Et oui, ça faisait longtemps. Un démenti, tiens. Et il concerne la chanteuse Adèle. Hello Adèle, goodbye Adèle. Oui, puisque j'essaie de faire une petite blague que je viens d'inventer. Hein.
Ouais.
On me dit qu'elle est drôle. Elle devait sortir son album en septembre, mais finalement non. C'est pas septembre, l'enregistrement a été au ralenti. Adèle continue de travailler, pas de nouvelle date prévue pour le moment.
Ouais, on vient de me dire qu'il était démenti que votre blague soit drôle. Merci beaucoup, non je plaisante, c'est pas vrai.
Hélène,
on vous retrouve tout à l'heure pour le portrait inattendu. Dans un instant, on va recevoir Franz-Olivier Gisbert.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien directeur du Point, mais toujours éditorialiste dans ses pages, chroniqueur radio-télé, romancier, essayiste. Et là, c'est un nouveau roman qui sort. Il s'appelle Dernier été, publié chez Gallimard. C'est à ma connaissance le premier roman de l'après-Covid. Vous l'avez terminé quand? Puisque le mot Covid est dans ses pages.
Alors, il était terminé en janvier, mais je l'ai refait, disons, en mars.
Voilà. Vous avez rajouté?
Oui, j'ai rajouté parce que je me suis dit, oh, bah, ça tombait, c'était complètement le propos du livre, du roman, parce que c'est un roman.
Exactement.
Et donc, voilà, j'ai rajouté ça, c'était facile.
C'est pas de la science-fiction. Mais c'est une uchronie, on est en 2030, donc dans 10 ans, et dans les deux premières pages, on apprend que la France de 2030 est à feu et à sang. À cause de la canicule, il y a les émeutes de la chaleur, des étudiants qui manifestent également contre le chômage, la précarité, des groupes d'extrême gauche, les enragés, les exagérés, luttent les armes
ça,
à la main.
Ça, c'est des mots de la Révolution française, hein. C'est revenu, quoi.
Ouais. Ils luttent les armes à la main contre la campagne de dépistage systématique du Covid-30. C'est la fameuse grippe qui arrive de Chine. On est passé de 19 à 30, et sous la pression des islamistes et des décroissants, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer la fête de Noël. Vous voyez vraiment la France comme ça dans 10 ans ?
Alors d'abord, quand vous dites uchronie, c'est un mot un petit peu sérieux.
Oublions
par rapport
ça.
À ce roman. Oublions,
oui, oublions uchronie.
C'est plus une satire, ouais. Une farce. Oui, c'est plutôt ça. J'ai décidé, disons, de critiquer l'époque. Parce que c'est vrai, je m'en prends à l'époque. Je pense qu'il faut vraiment réinventer un esprit de résistance par rapport à l'évolution des choses. Mais en même temps... En marrant, et je pense que le rire est la meilleure arme.
Alors, j'avoue que c'est très très drôle, parfois c'est des élucubrations, mais parfois le propos semble étayé. Par exemple, vous expliquez que les enragés, les exagérés, j'arrive à le dire.
Je rappelle que ce sont des sectes de la Révolution française, c'est revenu. Hein, c'est,
j'entends bien.
On a l'impression de revivre un certain passé régulièrement.
Ouais. Et il s'inspire d'Edwy Plenel, je vous cite, Edwy Plenel qui avait salué en 2020 l'apparition du coronavirus, le jugeant révolutionnaire parce qu'il avait causé un krach boursier.
Ah, ça, je l'ai entendu, ça.
Il a vraiment dit ça.
Oui, bien sûr, il a dit ça. Bien sûr. Bah, c'était pas relevé, mais. C'est amusant de le relever.
Et alors, vous le connaissez bien ?
Oui, bien
comment
sûr,
ça
je connais depuis longtemps.
Vous le
pas très bien. Pas très bien. Non, mais.
Attendez,
non, mais attendez.
Parce que page 133, plus loin, vous refaites la bio. Notamment, les petits arrangements d'Edwy Plenel avec la vertu. Sa fille avait bénéficié d'un emploi à la mairie de Paris alors qu'elle habitait Berlin.
Oui, mais il fallait pas en parler. Mais
il
oui.
avait refusé pendant des années de payer le taux de TVA réglementaire pour son site, ce qui s'apparente à de la fraude fiscale, écrivez-vous. Il s'était gavé à titre personnel en revendant à prix d'or les parts de sa boîte. En
ah bah ça, attendez.
À ses salariés.
2,9 millions.
Oui, mais
c'est,
il s'est défendu point par point là-dessus.
Oui, mais attendez,
tout était légal.
Il critique les retraites chapeau, hein, parce que c'est l'histoire du Tartuffe de Molière. C'est-à-dire, il critique sans arrêt les retraites chapeau, il fait des papiers là-dessus, c'est horrible, les retraites... Ah ben, il s'est fait une retraite chapeau. C'est amusant de le signaler, c'est tout.
Ouais.
Moi, après, vous savez, je ne juge pas, et puis c'est pas grave, et puis voilà, et puis si je le vois et qu'il veut me saluer et qu'il s'enfuit pas, je serrerai la main volontiers.
Vous ben avez oui. vraiment qui va vouloir vous saluer ?
Ah ben, je sais pas, moi, mais moi, vous savez, on peut raconter ce qu'on veut sur moi, ça me fait toujours... sourire. D'ailleurs, je crois que j'ai un cuir d'éléphant. C'est peut-être pas son cas, il a pas l'habitude, parce que les gens ont peur de lui. Mais moi, j'ai pas peur. Il se trouve que j'ai pas peur. Voilà, je suis une sorte de tireur fou.
Alors, le tireur fou, c'est vous-même, parce que le roman est écrit à la première personne. Le narrateur est une narratrice, elle s'appelle Diane. Elle a une cinquantaine d'années, mais elle rencontre votre double, qui est Antoine Bratsock. On avait déjà vu dans un précédent roman.
Ouais, ouais.
Et c'est elle qui vous décrit ainsi. Un octogénaire, parce que là, vous avez 71 ans. Mais dans 10 ans, vous aurez 80.
Alors, 81 même.
Un octogénaire du genre sportif, au visage émacié, qui se croyait beau. Il passait souvent à la télé pour présenter ses livres, autant il y avait des émissions littéraires. Même quand il n'avait rien à dire, on n'entendait que lui. Ça va ?
Oui, oui, mais attendez...
Après, vous comparez à Clint Eastwood, donc je me dis, ça va les chevilles.
Non, pas du tout. Je fais un autoportrait absolument dégueulasse. C'est mon pire ennemi, n'aurait pas fait pire. D'ailleurs, j'en rajoute même, parce que je me décris comme un personnage extrêmement trouillard, calculateur, etc. Je crois qu'on peut tout dire de moi, sauf ça.
J'ai plutôt tête brûlée.
Vous voulez tuer quelqu'un.
Alors, j'ai oublié de dire, il y a aussi un président à vie qui termine toutes ses déclarations par Allahu Akbar. Il y a aussi un parti unique. C'est le parti unique du bien.
Bah oui, bah on l'a presque.
Ouais. C'est quoi le pub ?
Le camp du bien est au pouvoir. Il est au pouvoir aujourd'hui, partout. Vous savez très bien, le camp du bien. Et le journalisme consiste aujourd'hui non plus à faire des enquêtes, mais plutôt à faire des listes. Alors, il y a les gens dont il faut parler, ceux qui ne font pas parler, donc
les gens bien, les gens pas bien. Dans le roman, il y a les auteurs et les livres subversifs qui sont interdits à cause d'une loi de moralisation. La liste noire, alors il y a Céline, Bernanos, Duras, Anna Arendt, je ne sais pas pourquoi, Chardon, Finkielkraut, Guitry, Heidegger, Gide, Onfray, Houellebecq, Philippe Muret, dont on reconnaît l'inspiration. Philippe Muret, tout comme Houellebecq, Chateaubriand. Et alors, ce qui m'a beaucoup plus, c'est ça. La liste des auteurs interdits est établie par une commission présidée par un ancien animateur d'émissions littéraires, François Bunel. Bim. Pourquoi c'est lui qui s'est pris une balle perdue? Pourquoi
parce
Bunel
qu'il fallait
faire
trouver,
là
il fallait trouver une icône. Si vous voulez, j'ai pas trop le choix.
Non, mais c'est pas
j'aurais
un liberticide,
pu prendre
Bunel.
Pivot. Oui, mais enfin, je trouve, par exemple, par rapport à la période pivot, c'est quand même très différent. C'est-à-dire, c'est un très compassé, c'est un peu confiné, c'est l'entre-soi. Il n'y a pas cette folie de pivot qui était juste extraordinaire. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire, il réussissait à mettre en scène la littérature. Vous savez très bien, il y a des moments extraordinaires. Vous êtes plus jeune que moi. Mais moi, je sais que je rentrais le soir, le vendredi, pour regarder qu'est-ce qui allait se passer chez pivot.
Je suis pas
là, on
ne
peut pas
vous
dire que ce soit pas le cas. C'est-à-dire, c'est,
moi, je vais
c'est
défendre
plan,
Bunel.
Plan,
je
mais défendez-le, défendez-le.
Non,
mais
je veux dire, c'est
mais
très simple.
C'est un
non,
peu,
non,
si vous voulez, ma conception.
C'est la manière qu'on a dû avoir un souvenir.
Non,
c'est que pivot,
non.
Vous l'avez vu pendant 15 ans.
Non,
donc évidemment,
non,
les moments
non,
très forts.
Non,
mais
ce n'était
pas toujours très fort.
Il n'y aurait pas eu Bukowski ivre-mort chez Bunel. C'est impossible.
Ça, c'est vrai.
C'est-à-dire, Bunel, c'est, je suis désolé, moi, j'ai rien contre lui. Et je suis désolé. Maintenant, les copains me disent, mais t'es con, mais t'es fou, mais quel con. Tu ne seras plus jamais invité. Ah, bah oui, bah, je ne serai plus jamais invité. C'est pas grave. Mais si vous voulez, Bunel, c'est la littérature officielle. Et moi, je n'aime pas la littérature. Pour moi, la littérature, si vous voulez, c'est toujours. Mais c'est, je crois que j'étais fasciné, d'ailleurs, à une époque de ma vie, je voulais être écrivain, j'ai toujours voulu être écrivain, puis j'ai ripé vers le journalisme, j'étais fasciné par ces têtes brûlées du journalisme comme Hunter Thompson que vous connaissez,
bien sûr,
espèce de fou
qui a inventé
absolu,
le gonzo journalisme.
Le gonzo journalisme, c'est-à-dire il allait voir Nixon, hein,
et
il faisait un portrait interne de Nixon, mais complètement délirant.
Mais je connais ça par cœur. Oui, je suis obligé de vous interrompre parce que moi je viens d'actuel, donc je connais très très bien cette chose-là. C'est
ben
juste
oui,
pour dire,
sais.
J'ai essayé
ben
de faire
sais,
une phrase pour arriver à faire taire Gisbert, c'est tellement pas facile. On marque une toute petite pause. Vous voyez comment est Gisbert déjà ? Et c'est rien à côté de ce qui va arriver. Il y a le portrait inattendu d'Hélène Manarino. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Notre invité, Franz-Olivier Gisbert, qui vient de publier Dernier été, c'est chez Gallimard, évidemment. Non, je ne dis pas évidemment, parce que vous avez été un peu dans toutes les maisons
ouais,
d'édition.
Non, non, surtout Gallimard quand même.
Vous connaissez Hélène Manarino ou pas ?
Ah ouais, mais je l'entends évidemment quand même par l'écouter.
Ouais.
Bah oui.
Vous en pensez quoi ?
Formidable.
Formidable.
Ah ouais. Voilà, après, peut-être qu'elle va être vache, mais c'est pas grave.
Non,
mais
pas
je vais être
tout.
Le premier à rire. Je vais être le premier à rire.
J'espère.
Parce que je ris beaucoup. Je crois que j'ai vraiment le sens de l'autodérision quand même.
Je suis là pour dévoiler donc presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Il y a eu une enquête. Alors je sais que vous dites à chaque fois ce que vous pensez, que vous n'avez pas de filtre. N'hésitez pas. Franz-Olivier Gisbert, l'homme au chapeau, jean et t-shirt Levis, grand insomniaque. Vous pouvez passer la nuit debout. Vous passez d'ailleurs votre temps à tester des plantes qui aident à dormir. Mais heureusement qu'il y a vos jus de cranberry et grenade quand même. Et que lors
vous avez beaucoup travaillé,
de votre vrai, voyage en Arménie, vous avez pu acheter des pressoirs de fruits, vous savez, manuels. Vous avez
fait.
Équipé toutes vos maisons de pressoirs arméniens.
Tout à fait.
Alors, l'homme stressé aussi, vous avez la phobie des cambriolages, bon, comme tout le monde, mais chez vous, il y a des alarmes partout. Si on part 10 minutes, tout doit être fermé,
c'est vrai
vérifié. C'est votre priorité.
Moi, bon, à Marseille, c'est normal.
Alors, pas de cambriolage aujourd'hui, mais on va entrer un peu dans votre intimité. Ça, c'est l'introduction, Franz-Olivier Gisbert. Un portrait de vous-même inattendu ne peut pas commencer par autre chose que votre amour pour les animaux. Et quel amour ! Interdiction de manger de la viande devant vous, vous pouvez vous mettre très en colère. Un jour au restaurant, vous avez pris du poisson, sauf que la sauce, c'était un fond de veau. Et ce n'est pas du tout passé. Vos enfants n'ont pas le droit de manger de la viande, c'est une vraie souffrance pour vous, pas de blague. Alors, vous mangez des œufs, et petit, c'était du porridge seulement. Les animaux, la nature, depuis l'enfance, lorsque vous habitiez au bord de la rivière, vous alliez pêcher avec votre sœur, elle était un peu votre assistante. Et puis, à l'âge de 13 ans, vous avez décidé de récupérer tous les hérissons malmenés pour qu'ils puissent vivre dans votre lit.
Non.
Et vous vous en êtes occupé pendant des mois.
Attendez, vous avez des hérissons dans votre lit ?
Oui, j'ai vécu avec un petit hérisson notamment. Mais
comment on dort avec quand on sort
mourir de diarrhée.
Non,
il n'y avait aucun problème. Non, les crottes étaient vertes, c'était pas sympa pour ma mère qui devait laver les draps après. Mais
j'aurais pas dû me lancer là-dedans.
Allez Philippe, bon courage.
Mais le hérisson, les épines sont lissées la nuit. Donc il n'y avait pas de problème, il ne m'a jamais piqué. Il était adorable, Un peu, comment dire, il voulait toujours être avec moi. Quoi.
C'était un peu collant, hérisson collant. Alors évidemment, il y avait aussi votre chèvre pour vos 7 ans à qui vous confiez. Votre chat Piu-Piu aussi que vous avez sauvé. Mais votre amour pour les animaux, ça va encore plus loin. Pour vous, pas question de tuer les moustiques à Marseille avec un anti-moustique. Non, surtout pas, François-Olivier Gisbert. Pas le droit d'enlever non plus les toiles d'araignées de votre domicile.
Non, c'est pas juste sur les moustiques.
Apparemment,
c'est ma seule exception. Non, je tue les moustiques. Non,
Vous écrasez les moustiques. En revanche, pas le droit d'enlever les toiles d'araignée de votre domicile.
Ça, c'est vrai.
Vous
c'est
êtes capable de briefer la femme de ménage pour qu'elle ne touche à rien.
Ouais.
Alors, les gens qui vous rendent visite acceptent donc que la toile et sacrée chez Fogg. Votre toile, vous l'avez tissée à votre rythme. Faire vos courses, rester tranquille chez vous, faire votre marché. Et puis votre rythme avec vos plantes aussi. Vos oliviers, dont un qui a 1000 ans et que vous avez rapporté de Grèce.
Oui.
Votre passion pour les belles de nuit, une plante qui s'ouvre le soir, vos tomates plantées sur votre terrasse, interdit de couper les fleurs chez vous, sinon on se fait gronder quand même. Et pourtant, vous êtes d'une nature calme, vous ne vous énervez presque jamais. En voiture, vous conduisez lentement, vous pouvez faire 3 fois le tour avant de trouver votre chemin. Rien n'est grave.
Ah oui, c'était bien, oui, c'est bien enquêté.
Vous n'avez pas de GPS ?
Oui, j'ai un GPS, je peux m'en servir, mais je ne le mets pas. Ouais. Je m'en fous quand je me perds. C'est un truc affreux. Et Jean-François Kahn, exactement comme moi, ça, c'est un trait qu'on a tous les deux. On se perd, on s'en fout, on est content.
Et ben c'est ça.
Oui, mais après vous êtes en
retard. Alors le calme, c'est grâce aussi à la musique classique omniprésente dans votre enfance. Dans votre enfance, en ce qui en avait chez vous, vous deviez vous asseoir sur le lit de vos parents, ne pas parler, écouter. Vous avez fait du violon, mais vous n'aimiez pas trop ça. Mais la chanson
qui peut vous
émouvoir aujourd'hui.
Mais j'étais très très mauvais. J'avais mais j'avais pas l'oreille. C'est-à-dire, je jouais faux. Quoi.
Ah bah oui, et que le violon, comme il y a pas de case, on est obligé de jouer
chanson,
juste.
La chanson qui peut vous émouvoir aujourd'hui reste un grand opéra italien. Pavarotti, oui. Votre idole.
Souvent je pleure quand j'entends ça. D'ailleurs je pleure à chaque fois. J'ai des frissons là. Là j'ai les chairs de poule, vous pouvez vérifier.
Alors, Philippe va vérifier, on peut vous le dire, vous êtes dingue.
On n'a pas le droit de se toucher, c'est le Covid.
Ah oui, c'est le Covid. D'opéra italien, il y a aussi Johnny Cash, le chanteur Christophe aussi, vous l'avez vu 3 fois le même spectacle. Mais ce qui vous a donné envie de tisser votre premier mensonge, finalement, c'est cette chanson. The King's Death of Clown, groupe anglais interdit à la maison. Donc dès que vos parents partaient, vous la mettiez à fond et vous dansiez avec votre sœur. Aujourd'hui,
oui, Fabienne,
une autre chanson vous galvanise. Et attention, vous pouvez même danser là, tout de suite, parce que vous n'êtes pas capable de ne pas gigoter là-dessus.
Ah, c'est génial, ça. C'est incroyable. C'est impossible de pas danser quand on entend ça.
Je vais finir mon porte. Allez-y, voilà, Can You Feel It de Michael Jackson. C'est sur cette chanson.
C'est les Jackson, hein, c'est tout.
Oui, les deux Jackson, exactement.
Il y a papa et puis il y a
Jackson 5.
C'est sur cette chanson que vous menez la danse dès votre plus jeune âge. Vous avez été doté d'un talent de créateur incroyable. Vous montiez des pièces de théâtre avec votre maman. Et elle jouait toujours le rôle de Marianne. Vous étiez très proche, ancienne professeure de philosophie. Et vous dites toujours aujourd'hui, ma maman, eh bien, elle était géniale. Géniale comme vos caricatures que vous dessiniez. C'était des portraits de la famille, très proches de votre sœur. Vous lui avez quand même dit un jour, arrête de me coller, ça m'empêche de draguer des filles. Papa génial aussi. Vous emmeniez souvent vos enfants au cinéma. Et puis surtout, à la pointe de l'actualité, vous connaissez par cœur l'univers du rap, notamment eux.
C'est qui ça ?
C'est Eminem, enfin.
Ouais, sur
et
un
ça,
autre ton.
Ça, vous connaissez aussi. C'est Tupac.
Ah, Tupac Shakur, évidemment. Ça,
voilà,
j'écoute
vous aimez beaucoup.
Oui, bien sûr.
Voilà, ça fait partie de votre playlist, évidemment. Alors, pour vous détendre aussi, qu'est-ce que vous faites ? Pour vous muscler le dos, vous faites de la natation, mais surtout, vous avez commencé la boxe. Vous savez aussi vous muscler un doigt, puisque lorsque vous travaillez, vous tenez votre ordinateur de la main gauche et vous tapez d'un doigt de la main droite.
C'est pas vrai.
Et
c'est
vous
vrai.
Pouvez rester comme ça pendant des heures.
C'est dingue. Mais
c'est un talent, quand même.
Oui, mais je l'ai souvent, je le tiens. Je l'ai toujours avec moi.
C'est vrai ?
Il est toujours là.
Pourquoi vous le tenez comme ça ?
Parce que c'est comme ça.
D'un doigt. Alors
non,
vous restez.
Je fais pas ça pendant des heures.
Vous restez rêveur. Si ça ne va pas, vous dites souvent allons vivre en Arménie ou en Inde. Fogg, la force tranquille finalement. Nous non plus, on n'enlève pas votre toile.
Merci beaucoup,
merci.
Hélène. Culture Média qui continue à demain, Hélène. Dans
à
un
demain.
Instant, notre premier indispensable du jour avec Angèle Châtelier. On va parler musique, le nouvel album de Fakir.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
En compagnie de l'écrivain Franz-Olivier Gisbert, écrivain et journaliste, votre dernier roman, il s'appelle Dernier été. On parlait musique dans quelques instants avec Angèle Châtelier. Il y a encore de la musique dans votre France de 2030. On a le droit d'écouter de la musique. On n'est pas chez les talibans à Kaboul.
Absolument.
Où on avait des coups de bâton si on écoutait une cassette. Sauf que l'humour, dans le monde que vous décrivez, donc la France dans 10 ans, est réglementé, je vous lis. Les dessins humoristiques sont interdits dès lors qu'ils risquent d'offusquer les roues.
C'est déjà interdit, vous avez le New York Times, il a arrêté les dessins humoristiques, il y avait trop d'histoires.
Ouais, mais
donc
pas,
ça va venir en France.
Mais pas aux États-Unis.
Mais attendez, c'est l'américanisation. Le politiquement correct, toutes ces conneries, la bien-pensance, tout ça, ça vient directement des États-Unis. Hein. On est en veille.
Vous me faites ma question, et dès lors, les dessins humoristiques, écrivez-vous, sont interdits dès lors qu'ils risquent d'offusquer les roux, les frisés, les chauves, les barbus, les agriculteurs, les obèses, les maigres, les demeurés, les surdoués, les fonctionnaires, les cheminots, les musulmans, les alcooliques, les policiers, les délinquants et les cyclistes. Autant dire la quasi-totalité de la population, hormis les milliardaires, ce qui ne fait pas tant de monde que ça. Non, et donc,
vrai.
On y vient,
dites-vous. Mais c'est vrai, mais on y est en plein, mais vous ne vous rendez pas compte. Et on voit très bien. Aujourd'hui, vous écoutez les sketchs, tout le monde le sait, les sketchs des proches, Coluche, tout ça.
Ils seraient interdits.
Mais ce serait interdit, on n'aurait pas le droit de le diffuser. C'est pour ça, d'ailleurs, que les radios rediffusent ça, parce que ça. Mais ça, moi, et Gaspard Proust, son succès, c'est quoi? Bah c'est qu'il presque, il est en, comment dire, en clandestin.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Il passe pas à la radio, etc. Et puis il fait ses spectacles et il y a un monde fou parce que les gens, voilà. Et je pense que voilà, ce livre-là, c'est un roman, c'est pas un essai, mais c'est comment dire, un livre pour la liberté. Voilà, la liberté d'expression. Elle est en train de se barrer, la liberté.
Et dis donc, parfois, vous, quand même, en matière d'humour, vous refourguez des vieilles blagues de Bigard.
Ah bah oui, j'aime bien.
J'en ai trouvé
mais
une.
Mais j'aime bien les vieilles blagues. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rire des blagues de Bigard?
Je vais le dire. Heureusement que le Christ n'a pas été empalé, sinon, vous imaginez le geste qui remplacerait le signe de croix.
Oui, c'est comme ça.
Ouais. Et alors, je vais vous sauver, parce qu'il y a un magnifique échange à la Oudiard.
Mais vous n'allez pas me sauver, moi, j'assume.
Non, c'est pas ça, c'est repiquer les blagues des autres, ça se fait pas.
Ah oui, d'accord.
Sans
oui,
le citer.
Enfin, tout le monde sait, elle est très connue.
Ouais, voilà. Non, y a un magnifique,
c'est un petit clin d'œil.
Magnifique échange à la Oudiard, c'est Jackie et Antoine qui discutent. Il y en a un qui dit, pour un intellectuel, t'es quand même bizarre, on dirait que tu ne réfléchis jamais aux conséquences de tes actes. Et l'autre lui dit, c'est précisément la définition de l'intellectuel.
Bah oui, c'est ça, non?
C'est du Oudiard.
Bah oui, c'est ça, oui.
Vous écoutez de l'électro, ça n'a aucun rapport.
Oui, ça m'arrive.
C'est que j'avais un enchaînement à faire, justement. Bonjour,
Angèle Chevalier.
C'est quoi, c'est Daft Punk encore?
Non, pas du tout. C'était... Non, Daft Punk, ça aurait été en 2010.
Oui,
c'était
voilà.
La fin de Spatio Temporal.
Non, c'est méchant, ça.
Bah, si,
c'est le plus grand groupe français.
Bon, on est
partout.
D'accord. Non, mais on l'aurait fait découvrir en 2010, parce que elle va nous faire découvrir un nouveau groupe. Et alors, je dois dire, alors, Angèle, c'est elle qui a ri. C'est votre voix qu'on a entendue sur la vanne des cyclistes.
Oui, c'est
donc,
ça que je suis.
Le nouvel album de Fakir, qui n'est pas un groupe.
Moi aussi.
Pas un groupe, non, mais il s'appelle.
Mais
c'est
un
garçon qui s'appelle Théo. Alors, je sais que vous aimez Philippe la musique électronique. Ouais. J'espère ne pas vous décevoir avec cet artiste, Fakir, qui sort son troisième album. Alors, Fakir, qui a collaboré avec Jane, avec le trompettiste Ibrahim Maalouf. On le connaît aussi pour sa musique aux sonorités asiatiques. Peut-être que vous avez déjà entendu La Lune Rousse, l'un de ses plus gros succès. Mais pour ce troisième album, Fakir a fait comme lorsqu'il était lycéen et qu'il bidouillait du son dans sa chambre. Il a investi du matériel chez lui et depuis son salon, il a créé cet album. Ce n'est pas une grosse production, il n'y a pas de grosse collaboration. Il aime dire que c'est un album familial. Alors la musique électronique, vous le savez Philippe, est une musique pour laquelle il faut accepter de voyager, de prendre son temps, car souvent il n'y a pas de paroles et ça rend le genre fascinant et interroge. Comment faire parler ses émotions sans texte? Alors ce troisième album, ce sont les entrailles de Fakir et tout ce qu'il n'a pas dit avec des mots, eh bien il le dit en son.
Et alors comment il a fait?
Ça s'est passé en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu la création de ses premières chansons, comme ça, de manière naturelle et limpide chez lui, puis la rencontre avec un grand producteur, Alex Métrique, et enfin le confinement. Alors que l'album était fini, il s'est rendu compte quand il était enfermé, comme nous tous, qu'il avait encore des choses à raconter, si on l'écoute.
La musique, ce qui est cool, c'est que tu peux retranscrire une tonne d'émotions, ou même des émotions qui sont plus complexes, qui ont plusieurs couches, tu vois, des trucs qu'on ressent en fait, très humains, qui vont au-delà des mots, quoi. Moi, c'est toujours un truc que j'ai cherché aussi à faire dans ma musique, c'est-à-dire de pas juste exprimer une seule émotion. Tu vas pas avoir un morceau juste triste, ou juste colère, ou juste joie, tu vois, juste, je voulais quelque chose qui ait plusieurs couches à chaque fois. À la fin de l'écriture de cet album-là, du coup, on a fait avec le producteur Alex Métrique. En fait, on sortait d'une session de 3 semaines où on a tout réécrit, on a tout réarrangé et tout ça. Et lui, en fait, m'a fait aussi découvrir énormément de synthés, de manip. C'était un peu mon maître Jedi parce que moi, j'arrivais dans un studio avec un type qui avait 10 ou 15 ans d'expérience de plus que moi et un Grammy. En revenant de cette session-là, l'album était terminé, tu vois. On s'était dit, bon bah voilà, paf, c'est bon, on l'a notre album. Et en fait, en revenant de là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout fini. Je viens de découvrir un nouveau plein de nouveaux moyens d'expression, plein de nouveaux petits tours de magie, tu vois, que Alex Métrique m'avait refilé. Et du coup, je me suis relancé carrément dans la création d'un album. Et le confinement aidant, j'ai poussé le truc jusqu'au bout, quoi.
Voilà pour ce troisième album de Fakir, le fruit de ses entrailles, un beau voyage en attendant les vacances.
Et Angèle voulait rajouter quelque chose.
Oui, peut-être rappeler que le secteur de la musique électronique est loin lui aussi d'être sorti de la crise, parce que contrairement aux bars, aux restaurants, aux salles de concert aussi, les boîtes de nuit sont fermées a priori jusqu'en septembre, et les clubs, c'est souvent là que se produisent les artistes de musique électronique. Donc ce qu'on peut faire, si le genre nous plaît bien sûr, bien on peut les aider en les écoutant et en achetant leurs disques.
Merci beaucoup Angèle. Une réaction, François-Olivier Gibert, ça vous plaît, ça vous touche cette musique? Vous avez le droit de dire non, hein.
Non, pas des masses, mais ça c'est bien. Ouais. Mais je suis pas un fou de musique électronique, hein, disons les choses.
Moi quand même, mais un tout petit peu. On va danser, ouais, on va voyager avec ce titre de Fakir.
Mais j'adore toutes les musiques. Hein.
D'accord, il y a une chose que j'ai pas dite, Fakir, c'est F-A-K-E-A-R. Oui, c'est vous voulez le chercher sur c'est internet.
Vrai. Ça je savais.
Ouais, vous savez, il en sait des choses.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain qui publie Dernier été. C'est le premier roman qui cite le Covid. Bah c'est oui. Remarquable, c'est chez Gallimard. Clément Le Saff, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous jouez aux jeux vidéo, François-Olivier Gisbert?
Non.
Et vos enfants?
Hélas.
Faut pas dire ça.
On démarre bien. Clément, les vacances approchent. Quel jeu vous nous conseillez de mettre dans nos valises? Mais d'abord, comment est-ce qu'on emmène des jeux vidéo dans sa valise?
Eh ben, y a plein de solutions. Soit vous l'avez dans votre poche, et c'est encore plus simple que la valise, c'est votre téléphone. Il y a plein de jeux super. Soit vous avez la Switch, elle transporte partout, elle fait même pas 20 cm de long, donc ça c'est très facile à mettre dans la valise. Soit vous avez une très grosse valise et vous pouvez emmener carrément votre PS4 ou votre ordinateur. Voire, il y a des maisons, vous le disiez Philippe, il y a des maisons où on peut louer avec carrément la PS4 dedans.
Alors, vous commencez par le jeu de l'été, selon vous, c'est lequel?
Eh bien, c'est Ghost of Tsushima. Moi, je l'avais mis dans ma liste, un des jeux les plus attendus de l'année. Il aurait déjà dû sortir, mais il a été retardé par le coronavirus. Une aventure dans le Japon médiéval qui s'annonce épique. Alors, je vous ai laissé la bande-annonce en japonais parce que c'est quand même très classe. On peut jouer avec les dialogues en japonais. Moi, je commence comme ça, mais il y a une VF, hein, je vous assure. Hein, si jamais vous n'avez pas envie de vous emmerder, vous avez les sous-titres en VF. Ghost of Tsushima, ça sortira donc le 17 juillet. Hein, encore un peu de patience, mais moi, j'ai eu la chance, ce petit privilège, de pouvoir commencer à le tester dès en avant-première, dès ce week-end. À peine quelques heures, hein, mais je n'ai qu'une hâte. Continuer d'y jouer. On incarne Jin. C'est un samouraï qui est confronté à l'invasion mongole de Kublai Khan. Sur Tsushima, une petite île entre le Japon et la Corée, c'était au XIIIe siècle pour les férus d'histoire. Le but, c'est d'aller d'un point à un autre sur l'île, d'affaiblir les forces mongoles à grands coups de katana. C'est très stylisé, les développeurs ont puisé leur inspiration du côté des films d'Akira Kurosawa. Il y a pas mal comme référence. Et si vous êtes comme moi, eh bien fasciné par les samouraïs, vous allez adorer Ghost of Tsushima. Je précise, il sera disponible uniquement sur PS4, donc là, il faudra trouver une PS4 sur votre lieu de vacances.
Alors, en attendant que ça sorte, on joue à quoi cet été?
Alors, on va changer de console, on va changer de registre, on passe sur la Switch de Nintendo pour un jeu très très pratique puisqu'il contient 51 jeux à l'intérieur. Il s'appelle 51 Worldwide Games et comme son nom l'indique, c'est un jeu qui rassemble 51 jeux venus du monde entier.
Quel genre de jeu?
Alors, ce sont principalement des classiques, hein, des jeux de cartes ou des jeux de société qu'on connaît tous.
Ah oui.
La bataille, le président, solitaire, poker ou encore blackjack pour les jeux de cartes. Et puissance 4, backgammon, échec, dame pour les jeux de société. L'avantage, c'est que vous avez tout dans un jeu qui tient dans la taille d'une petite cartouche comme ça. Donc, pas besoin de s'encombrer avec les boîtes et les plateaux. C'est parfait pour les longs trajets en voiture et les soirées entre amis ou en famille. Mais et au-delà des classiques, l'intérêt de 51 Worldwide Games, c'est aussi de découvrir des jeux moins connus. Moi, j'ai adoré par exemple le Mancala. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Bah, c'est un jeu de réflexion africain dans lequel il faut transvaser des billes d'un trou à un autre. Donc c'est pas très compliqué, moi, très addictif quand même. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi découvert le Hanafuda, c'est un jeu japonais qui consiste à associer des cartes très stylisées, un peu façon estampe à l'ancienne. Bref, un jeu à picorer.
Et puis vous nous avez annoncé des jeux sur téléphone pour la route.
Exactement, j'en ai un. J'y ai encore joué ce week-end pour vous dire tellement il me plaît.
En conduisant?
Oui, bien sûr.
Exactement, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça s'appelle Assemble with Care sur iPhone. C'est un de mes jeux préférés sur mobile. Il est sorti l'an dernier. C'est un jeu narratif, c'est-à-dire qu'on suit une histoire et qu'on intervient uniquement à des moments bien précis. Cette histoire, c'est celle de Maria. C'est une réparatrice d'objets en tout genre, un peu on va dire dégourdie, qui pose ses valises à Bella Riva, une ville qui fleure bon l'été, et c'est raconté justement par la belle voix de Maria en anglais, mais sous-titrée en français dans le jeu.
Finally, I'd made it to Bella Riva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal.
Voilà, et petit à petit, Maria rencontre des habitants de Bella Riva. Ils sont très maladroits, hein, puisque chacun lui confie un objet à réparer, une montre, un appareil photo, un lecteur de cassette sont des objets qui leur sont chers. Et c'est là que nous, on entre en scène, les joueurs. Il faut tourner, retourner l'objet dans tous les sens, le dévisser, le démonter pour voir ce qui cloche et le remettre en bon état. Tout se fait avec les doigts, c'est très simple. Hein, je vous assure, il n'y a pas besoin d'être un as du bricolage pour y arriver. C'est vraiment un très joli jeu, très satisfaisant aussi. Hein, le fait de réparer comme ça des objets sur ce fond de musique douce, c'est très relaxant, idéal pour se détendre sur la chaise longue. Bref, foncez. Et si vous n'avez pas d'iPhone, pas de panique, il y a aussi une version d'Assemble with Care qui est sur PC et sur Mac.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. Ça vous a plu, ça vous a tenté ou pas du tout? Vous restez à l'ancienne, vous?
Ah non, c'est pas rester à l'ancienne. Je crois que, vous savez, le grand philosophe Épicure, là, de l'Antiquité, oui, il disait la vie est à peine commencée, hein, que c'est déjà fini. Bon. Ouais. Et on va passer ce petit bout de vie qu'on a, hein, à jouer à des trucs à la con. Non mais franchement, alors qu'il y a tellement de belles choses à voir. Et oui, les fleurs, les arbres,
mais vous avez bien fait
les enfants, fléchés,
vous avez bien fait un Scrabble dans votre vie.
Les fleurs. Non mais attendez, on est là avec notre petit machin, tu regardes ça, mais regardons le ciel. Sortons de nos tanières. Non mais franchement.
Je suis sorti de ma tanière pour aller dans le Japon.
Mais attendez, vous êtes formidable, vous êtes très jeune. Je vais pas dire en plus que ça, vous allez dire que je suis un vieux con tout de suite, mais lisez des livres. Mais enfin, c'est vrai aussi.
On peut lire des livres, on peut lire des films.
Enfin, je trouve que le problème de ces jeux vidéo, quand ils sont réussis, ils sont tellement addictifs que voilà, on rate sa vie, on passe à côté de sa vie.
D'accord.
On passe à côté de sa vie.
J'imagine que vous avez eu ce débat avec vos enfants. Restez avec nous
tout le temps. Je perds à chaque fois.
Vous restez avec nous. Merci.
J'ai pas
Clément.
Les
à
merci.
Très bientôt.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Franz-Olivier Gisbert, Dernier été, c'est son roman qui vient de sortir chez Gallimard. C'est la première fois que je lisais le mot Covid dans un roman. C'est même plus que le Covid-19, c'est le Covid-30, puisque ça se passe en 2030, votre histoire. Ça se passe à Marseille, vous habitez à Marseille.
Oui.
Question aux journalistes que vous êtes, que vous inspire, puisqu'on parlait du Covid et du coronavirus qui est dans ce roman, que vous inspire l'extraordinaire tohu-bohu médiatique autour du professeur Raoult?
Écoutez, c'est un personnage, c'est ça.
Vous le connaissez?
Bien sûr, je connais même très bien. Mais c'est un personnage, je connais depuis longtemps, et c'est depuis très longtemps un personnage. Donc effectivement, à partir du moment où la télé s'intéressait à lui, évidemment, il allait exister. C'est pas seulement à cause du physique, à cause de sa coiffure, mais c'est aussi à cause de ses propos, à cause de son humour. Voilà, c'est vrai, c'est une personnalité forte. Quoi.
Mais il y a aussi, on voit presque un débat droite-gauche, pour ou contre la chloroquine.
Ouais.
Paris contre province.
C'est pas si net que ça. Si vous écoutez Mélenchon, par exemple, c'est pas si net que ça. C'est pas droite-gauche. Je dirais plutôt c'est Marseille contre Paris.
Ouais.
Ça a choqué parce que j'ai dit un jour, c'est un peu PSG contre l'OM. Vous voyez, il y a un peu ça parce qu'il y a quand même une haine de Paris pour Marseille. Il y a un Marseille bashing absolument. Mais c'est permanent, c'est insupportable. Mmh. Enfin, dès qu'on parle de Marseille, notamment dans les médias parisiens, pas vous, mais souvent, c'est juste incroyable. On est allé à Marseille et on en prend plein la gueule pour pas un rond avec un nombre de. Enfin, c'est de la calomnie, ça relève de la calomnie, de la diffamation. Et là, ça a recommencé de manière. Enfin, il avait à peine ouvert sa gueule que tout de suite, tout Paris lui tombait dessus. Mais bon, en même temps, je pense qu'il le cherchait parce qu'on voit très bien le personnage que c'est. Il adore choquer, quoi. Il adore choquer.
Vous habitez à Marseille, vous êtes un grand connaisseur de la chose politique. Pouvez-vous nous expliquer ce qui va se passer à Marseille pour les élections parce qu'on ne connaît pas le maire?
Ah, mais c'est très compliqué. Hein. Si vous voulez, Ruby Rollat est devant,
ouais.
Vassal est derrière. Ravier est un peu dans les choux, le représentant du Rassemblement National, et il y a Samia Ghali qui est un peu la faiseuse de roi. Alors je pense que son cœur penchait peut-être du côté de Vassal. En même temps, elle a beaucoup d'amis du côté du Ruby Rollat, parce que bon, il n'y a pas une majorité très claire.
Tout
quoi,
ça va jouer en coulisses, alors ça va être des accords.
Oui, je pense qu'il y aura peut-être, enfin, puis ce sera peut-être Ruby Rollat à l'arrivée, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise parce que le résultat, bah, c'est Marseille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est une collection de villages et c'est comme ça, chacun sa personnalité, et puis bah, c'est toujours un peu comme ça à Marseille.
Voilà, vous y retournez quand?
Tout ce soir. Ce soir, oui, je ne peux pas rester très longtemps à Paris, je suis désolé.
Il y a plein de choses que j'ai oublié de dire sur votre livre. Il se termine de manière très étonnante avec des recettes de cuisine, avec des termes que je découvre avec vous. Pourquoi cette envie du shakshuka? Du chakalaka, de l'avelouk. Pourquoi ça? C'était pour nous faire rigoler ou c'est des vraies recettes?
Bah, c'est des vraies recettes, je les ai faites d'ailleurs. Ah ouais, bah.
Mais qu'est-ce que ça vient faire là à la fin d'un livre?
Oh, parce que j'en parle dans le livre, comme ça on peut faire les recettes derrière. Moi je fais beaucoup de cuisine,
ouais.
Donc c'est pas la première fois que je mets des recettes. Bon, j'ai dit voilà, ils vont manger ces plats. Ouais. Et je trouve ça très bien pour ceux qui ont envie de le faire. Notamment, vous n'avez pas parlé de peut-être le plat principal, quelque chose que j'ai fait beaucoup d'ailleurs pendant le confinement, c'est la soupe tortille.
La soupe tortille.
La soupe tortille, c'est formidable. C'est une des meilleures choses au monde et c'est très, 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 très bon pour la santé.
Et en plus, c'est gratos, les orties, on en trouve partout.
Enfin, vous les achetez parce que c'est.
Sinon, ah mince, faut, bon, alors, j'ai faut
chercher. Non, non, mais moi, je les achète, mais c'est vrai qu'on peut, on peut en trouver enfin, plus dans le nord que dans le sud.
Voilà, ça aussi, ça s'achète. C'est 18 euros pour la modique somme. Ça s'appelle Dernier été et c'est le dernier roman de Franz Olivier Gisbert. Merci d'avoir été avec nous pour rire sur Europe 1 en direct. Merci à tous, l'émission est terminée évidemment, mais on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Caroline Roux pour le Prime en direct de C'est dans l'air qui sera consacré à la crise du coronavirus juste après un documentaire. Et puis le DJ Martin Solveig, mais dans un instant c'est Anne Romanoff et toute sa bande juste après ça.